en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Le 22 octobre 2007 s'ouvrait la première demi-journée des travaux académiques de la Rencontre des Académies européennes. Cette rencontre a été organisée par l'Institut de France et les 5 académies qui le composent. L'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des beaux-arts, l'Académie des sciences et l'Académie des sciences morales et politiques. Le thème général de la rencontre était « Les académies dans l'Europe du XXIe siècle ». Comment les académies envisagent-elles leur avenir ? D'une identité nationale peuvent-elles contribuer à la réflexion sur l'Europe et y trouver une place ? Pour la première fois, 67 académies de l'Europe entière, au sens géographique, ont été invitées à une grande rencontre de 2 jours à l'Institut de France, à Paris, par le chancelier Gabriel De Breuil et les secrétaires perpétuels des 5 académies. 3 demi-journées de travail ont réuni les représentants de 61 académies européennes, soit de 35 pays. Les participants ont fait part des activités scientifiques, littéraires, artistiques de leur académie, de leur rôle auprès des pouvoirs publics. Elles ont cherché à s'enrichir des différences de nature, d'esprit et d'organisation, parfois profondes, qui existent entre elles. Les académies se sont interrogées sur elles-mêmes, faisant la preuve qu'elles savent constituer un réseau d'amitié savante et une communauté d'esprit qui ignore les frontières. 2 thèmes ont guidé leurs réflexions. Les académies face à l'État et à la société et les académies mémoire, recherche, création. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de la première demi-journée de travail consacrée au thème « Les académies face à l'État et à la société ». Vous pourrez entendre lors de cette retransmission l'allocution du chancelier Gabriel De Breuil pour qui, selon ses propos, par leur passé, par leur présence et leurs travaux, les académies démontrent que, préalablement à la grande démarche de la construction européenne, indépendamment des logiques de puissance et des recherches de croissance, il existe une Europe des idées que nous avons ensemble pour mission de défendre et d'illustrer. Fin de citation. Préalablement, les académies participantes avaient transmis leurs considérations sur le sujet des académies face à l'État et à la société. Jean-Claude Casanova, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, membre de l'Institut, en a fait la synthèse qu'il exposa ce matin-là devant ses confrères européens. Vous pourrez entendre sa synthèse, dont le sujet avait suscité l'envoi de très nombreux rapports sur les conditions de l'indépendance de ces académies, leurs libertés académiques, leur légitimité en démocratie, leur rôle consultatif auprès des pouvoirs publics et enfin leur rapport avec les universités et la recherche. Il a pointé aussi les menaces d'un monde où l'opinion règne sans toujours être informée et éclairée. Aussi, pour lui, les académies doivent s'interroger sur leur contribution à une information plus éclairée dans les domaines qui les concernent, par exemple dans celui des sciences de la vie ou de l'environnement. Les académies exercent une double fonction sociale, celle d'éclairer le passé et celle d'éclairer l'avenir. Elles relèvent de nombreux défis, comme celui de la défense et de la sauvegarde de toutes les langues d'Europe. La synthèse de Jean-Claude Casanova fut suivie d'une discussion nourrie la plupart du temps en français. Canal Académie a sélectionné quelques-unes de ces questions et en guise de conclusion, quelques propos de Michel Zing, membre de l'Institut et qui assurait la présidence scientifique de cette rencontre. Écoutons pour commencer cette retransmission l'allocution du chancelier Gabriel De Breuil qui ouvrait cette session de travail le lundi 22 octobre 2007, en grande salle des séances à l'Institut de France.
Mesdames et messieurs les présidents, madame et messieurs les secrétaires perpétuels, mesdames et messieurs les membres des académies invitées, mesdames et messieurs les membres de l'Institut, et mes chers confrères, bien entendu, en m'adressant à tous, par ce vocable unique, mes chers confrères, qui est d'un usage courant ici. Je n'oublie pas les femmes, et au sens figuré du terme, ma formule les embrasse toutes. La confraternité est un sentiment précieux dont nous vivons intensément. Fait d'estime, d'admiration, d'une certaine familiarité et d'une inépuisable courtoisie. Il me plaît beaucoup de nous placer, au début des deux journées que nous allons passer ensemble, sous le signe de la confraternité. Dès le jour où j'ai été élu chancelier de l'Institut, à la suite de Pierre Messmer, j'ai formé le projet d'organiser cette rencontre. Il en avait approuvé l'idée, un sentiment de fidélité et de joie m'envahit en ce jour où se réalise enfin ce vœu. Cette joie vient renforcer l'honneur qui m'est choix de vous accueillir dans ce lieu chargé d'histoire, dont le prestige aujourd'hui se double de votre présence. Depuis toujours, nous entretenons ensemble de nombreuses relations bilatérales. Mais c'est la première fois que se tient pareille réunion. En tant que telle, les académies européennes ne s'étaient jamais rassemblées auparavant. Mais quoi ? Cela fait 3 siècles qu'elles conversent et qu'elles œuvrent pour les mêmes objets qui se sont appelés la République des Lettres, les Lumières, l'humanisme. Si bien qu'aujourd'hui, ce sont plutôt des retrouvailles qu'une première rencontre. Que de choses nous avons à nous dire. Il est entendu que nous ne nous attarderons pas sur notre histoire. Elle est présente à l'esprit de tous. Mais enfin, cette réunion vient à son heure. Après une période de mutation profonde à l'Est, nous avons à nous donner mutuellement de nos nouvelles. À une période de transformation rapide partout, nous avons à réfléchir ensemble. Peut-être même, dans un contexte de mondialisation, avons-nous à nous conforter mutuellement. Les académies sont-elles finalement le creuset de l'esprit européen ? L'Europe peut sans doute se définir abstraitement comme une disposition d'esprit. Elle est une capacité à assimiler tour à tour, depuis l'origine, la pensée grecque, l'organisation de l'Empire romain, la leçon du christianisme. J'y ajouterai la réforme et l'idéal anglo-saxon d'une société de confiance. C'est sans doute ce que l'on désigne par nos racines judéo-chrétiennes. Elle est finalement une façon de se placer par rapport à l'ensemble du monde, comme l'homme au centre de la création. L'Europe a toujours accumulé le savoir et s'est développée par la foi dans le progrès. Les académies comblent-elles ce vaste programme ? Il ne doit pas nous échapper que les académies aujourd'hui et même autrefois ont toujours suscité et suscitent encore méfiance et critique. Il a toujours été de bon ton à Paris de se méfier de l'esprit académique et de l'académisme. C'est Paul Valéry qui constatait que l'académie a toujours fait l'objet de critiques. Ces critiques, disait-il, par leur persistance au-delà de toute actualité et leur indifférence à l'opinion générale, qui leur est contraire, participent au modèle même de l'Académie. Et il concluait, « Nos moqueurs nous sont consubstantiels. » Il y a quelque chose d'essentiel dans nos académies. Donner plus de stabilité et de force à la pensée, aux idées et à la langue qui font à un moment de l'histoire la force et la cohésion des nations. Et aujourd'hui, notre nation, c'est l'Europe. Il nous appartient à nous, académiciens, de fourbir les armes et d'entretenir les outils de la pensée qui permettent à une certaine idée de l'Europe de se maintenir. Cette idée de l'Europe, n'est-ce pas pour nous, académiciens, aujourd'hui, notre patrie ? Mes chers confrères, s'il est vrai que la notion d'Europe s'est progressivement émancipée de la géographie et de l'histoire, n'hésitons jamais à rappeler que c'est en raison de son succès même, et que nous sommes les dépositaires de cette notion qui est en réalité une vision de l'homme et du monde. Notre ancrage, au départ, ce sont les concepts généraux. Ils nous sont familiers. Ces concepts, ce sont la liberté, les droits de l'homme, la force de la pensée indépendante, la transmission du savoir. Peut-être nos réflexions communes amèneront-elles naturellement vers des thèmes plus actuels. J'en citerai quelques-uns. Les valeurs que nous défendons conservent-elles le caractère universel qui leur a toujours été reconnu et qui est parfois aujourd'hui contesté? Qu'est-ce aujourd'hui que l'Occident? Comment défendre les langues autour desquelles les nations se sont unifiées, qui sont les véhicules de la culture sur nos territoires et bien au-delà, et qui constituent par le plurilinguisme auquel nous sommes attachés l'une des richesses constitutives de l'Europe? En toute clarté, devrait surgir dans nos pensées cette constatation évidente. Une académie est par essence gardienne du passé. C'est un conservatoire des idées anciennes, d'où naîtront des idées nouvelles. Un lieu hanté par les esprits, mais ces esprits vivants et féconds. J'aime particulièrement ce passage de l'Enfer de Dante au chant 4. Nous sommes dans les limbes. Et Dante imagine cette scène fantasmagorique, Virgile le présente à Homère. Pour moi, ce n'est pas une scène gratuite, c'est au contraire une puissante illustration de la transmission du savoir, des idées, de l'esprit. Jamais ces trois poètes ne se sont rencontrés, et pourtant Dante a hérité de Virgile, lui-même héritier d'Homère. Qu'en sera-t-il pour nous ? Il me semble que les académiciens sont tous enfants de Dante, de Virgile et d'Homère, de Shakespeare, de Montaigne et de Goethe. Peut-être est-ce ce que l'on appelle l'immortalité. L'image de Dante souligne que les académies, dans la transmission du savoir, et avec le savoir des idées et de la sensibilité, le rôle des académies dans la transmission du savoir. Et nous partageons ce rôle, bien entendu, avec d'autres, avec les universités et les bibliothèques. Mais il y a une différence. Nous sommes indépendants. Nous échappons à la tutelle du pouvoir. Nous nous choisissons entre pairs. Notre lecture du monde reste indépendante. Elle peut paraître originale et même fantaisiste au lieu d'une société sur laquelle pèse forcément une pensée ou une idéologie dominante. Mais pensée et idéologie auxquelles nous n'avons, nous, aucune obligation de nous référer. Aurons-nous quelques résolutions à prendre ensemble? Je n'aurais pas la cruauté de souscrire entièrement à la définition de ce parlementaire new-yorkais Alfred Smith qui donnait des comités, cette définition suivante: le comité est un groupe de personnes qui individuellement ne peuvent rien faire et qui, une fois regroupées, décident qu'on ne doit rien faire. Une académie est heureusement le contraire et peut-être le prouverons-nous. Et encore une fois de plus aujourd'hui. Préalablement à la grande démarche de la construction européenne, indépendamment des logiques de puissance et de recherche de croissance, il existe une Europe des idées. Nous avons ensemble pour mission de la défendre et de l'illustrer c'est le thème de notre rencontre aujourd'hui. Notre séance de ce matin est consacrée à ce thème, l'Europe face à l'État et à la société. Je voudrais remercier les académies et les académiciens qui ont pris la peine d'envoyer une contribution écrite pour enrichir nos débats.
Vous allez entendre maintenant la synthèse des rapports envoyés par les différentes académies d'Europe par Jean-Claude Casanova, membre de l'Institut.
Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les secrétaires perpétuels, mes chers confrères, on dit que la première académie dont on puisse dire l'institution est celle que Charlemagne a établie sur les conseils d'Alcuin. L'Europe, donc, dès sa naissance politique, puis amplifiant ce mouvement avec la Renaissance et les Lumières, deux étapes propres à son histoire, n'a donc jamais cessé de faire référence à Platon et à ce jardin du céramique où l'on se réunissait pour converser sur des matières philosophiques comme nous nous apprêtons à le faire aujourd'hui. Entre membres des académies européennes, nous allons débattre de la situation de ces académies face à l'État et à la société. Pour préparer cette discussion, je dois vous rendre compte des observations que vos différentes académies ont présentées à ce sujet. Je ne saurais, dans ce bref exposé, ni les résumer, ni les citer toutes, tant elles sont nombreuses et riches, et tant il est difficile de mentionner l'une plutôt que l'autre. Ainsi, tout ce que je pourrais dire de raisonnable viendra des rapports dont je me suis inspiré, et vous me permettrez de solliciter votre indulgence pour le reste. Vos académies diffèrent par leurs origines, par leur histoire, par les pays dans lesquels elles sont nées. Elles diffèrent aussi par leurs règles, par leur vocation, qui peut être littéraire, historique, artistique ou scientifique, par les regroupements qu'elles opèrent ou non entre les branches du savoir et de la création. Mais elles ont tout en commun d'être européennes. Elles savent donc leur filiation antique, qui remonte à Athènes, Jérusalem et Rome. Plus que jamais, elles savent aussi que le monde ne se réduit pas à l'Europe. Toutes enfin, elles vivent à l'âge démocratique, mais en se souvenant que ce n'est pas toujours le cas dans le siècle qui précède. Nous savons que la démocratie, les progrès des sciences, l'intensification des échanges, l'organisation des sociétés modernes font que le rôle des académies diffère profondément et différera encore plus demain de celui qu'elles ont joué dans le passé. Notre débat devrait donc permettre de savoir comment nous répondrons avec nos ressemblances et avec nos différences aux défis que nous pose le monde moderne et d'abord l'État et la société moderne. Pour que vous puissiez donner ces réponses, je vais essayer de rassembler les questions qui se dégagent de vos rapports. D'abord, les libertés académiques. Les académies ont été créées par l'État, souvent d'ailleurs quand l'État se confondait avec le prince. Elles ont survécu aux formes politiques qui les ont vues naître. Mais elles bénéficient toutes de statuts publics, souvent de la protection des gouvernements et de fonds publics. Tout le monde s'accorde cependant pour considérer qu'elles doivent devenir plus indépendantes encore des États qu'elles ne le sont déjà et qu'elles doivent veiller à ce que leur indépendance soit maintenue quand bien même leur relation avec les pouvoirs publics s'accroîtrait. Quelles sont les conditions de l'indépendance? On peut énumérer les trois principales libertés nécessaires aux académies pour remplir leurs devoirs. D'abord, la liberté du recrutement de leurs membres, puis celle de fixer leurs règles de fonctionnement, enfin celle de délibérer sur les sujets de leur choix. Ces libertés n'existent que si les conditions réelles de leur exercice sont remplies. Il faut donc que l'État reconnaisse le statut privilégié des académies et qu'elle puisse disposer des ressources nécessaires. Ces ressources peuvent provenir des pouvoirs publics et dans ce cas, la régularité dans leur obtention, leur forme, leur publicité doivent réduire autant qu'il est possible l'inévitable dépendance qui naît entre celui qui donne et celui qui reçoit. C'est pourquoi le financement le plus parfait qui garantisse l'indépendance et donc la bonne marche de nos institutions est celui qui naît de la libre disposition d'un patrimoine garanti par l'État. Sans doute ces principes faciles à admettre ne vous préoccuperont pas longtemps, même si leur mise en pratique n'est ni certaine ni aisée. Ils soulèvent en tout cas dans le monde moderne deux questions. Dans quelles limites l'État démocratique moderne acceptera-t-il l'indépendance critique d'un corps ou d'une institution académique? Si l'État consulte ce corps, quelles conséquences résulteront-elles du financement de ces consultations? La démocratie repose sur la souveraineté du peuple et sur l'élection de ses représentants. La nature du régime n'empêche pas que des tensions puissent naître, des différences entre les opinions du souverain, c'est-à-dire le peuple, et celles des académies ou de l'usage qui sera fait des opinions académiques dans les luttes électorales et dans les pratiques gouvernementales. L'autorité que semble conférer la science et l'expérience ne suffiront pas à empêcher ces tensions. Le problème est de savoir comment il faut rendre possible l'expression de ces tensions ou de ces contradictions, comment il faut l'institutionnaliser pour la rendre pacifique. Car si on veut les empêcher, on obligera les académies au conformisme et on réduira le peuple à la docilité. Si on facilite au contraire leur expression, on devra autoriser les institutions académiques à jouer un rôle spécifique dans le débat démocratique, distinct de ceux joués par le souverain ou par ses représentants, rôle dont la légitimité serait propre aux académies puisqu'elle serait indépendante de l'égalité entre les citoyens. L'existence des académies postule la hiérarchie du savoir et n'émanerait pas des élections politiques. Cette légitimité propre aux académies ressemble à celle des juges dans leur domaine. Ils existent pour rendre justice sans se préoccuper d'autre chose, notamment de qui les finance et de qui les a institués. Les avis libres que prononceront les académies au nom de la raison et de la vérité, et pour autant qu'on puisse s'en approcher, ne seront pas des décisions politiques. Mais ils contribueront, s'ils sont exprimés librement et s'ils sont fondés, à de meilleures décisions publiques, exactement comme les magistrats, en rendant la justice, permettent une meilleure société. Autrement dit, le peuple ou ses représentants se trouvent dans la même situation que le prince d'autrefois. S'ils veulent bénéficier d'avis libres et savants, ils doivent en accepter toutes les conditions et tous les risques, y compris celui de la critique des dogmes les plus établis. Je ne doute pas qu'en matière de biologie, de médecine, de politique, de morale, d'esthétique, d'environnement, d'organisation de la recherche, d'éducation, les opinions de nos académies ne puissent être utiles à ceux qui représentent le peuple, ce qui est la définition la plus commode de l'État. Je ne doute pas non plus que ces avis, pour être formulés, recueillis et acceptés, exigent que le rôle de nos institutions soit clairement précisé. Venons-en au rôle consultatif des académies. Si les académies sont consultables et consultées par les pouvoirs publics, plusieurs questions se posent. Peut-on envisager que certaines consultations soient rendues obligatoires? Dans cette hypothèse, consultations sur des études, des projets, des nominations, les académies s'intégreraient dans le processus de décision publique. Elles y gagneraient en influence, elles pourraient y perdre en indépendance, puis qu'elles devraient prendre en compte dans leurs avis les conséquences de la décision qui serait prise ensuite. La question mérite donc l'examen. Le financement des consultations, s'il devient relativement important et régulier, peut-il restreindre l'indépendance des académies et infléchir leur jugement? Les consultations gouvernementales ne risquent-elles pas de diminuer la part des avis que formuleraient les académies de leur propre autorité? D'autres segments de la société pourraient-ils aussi consulter les académies et financer ces consultations? L'État pourrait-il alors réglementer ces consultations privées si, par exemple, elles avaient pour effet d'évaluer ou de critiquer des décisions publiques? Les rapports des académies avec la société que nous allons maintenant aborder sont plus complexes, comme le montrent vos documents, que les rapports avec l'État, parce que la société est plus complexe, qu'elle a plus évolué que l'État. Commençons par cette partie de la société qui, par son origine et ses finalités, est parente des académies, c'est-à-dire les universités. Les académies sont distinctes des universités parce qu'elles n'ont pas d'étudiants. Elles sont des corps savants sans être des corps enseignants. Mais elles ne sont pas sans avoir des liens étroits avec les universités. Elles comprennent dans leur rang un grand nombre de professeurs d'université en activité ou en retraite. Elles sont vouées à l'une des tâches principales des universités depuis la réforme Humboldt, le progrès et la diffusion des sciences. Leurs membres pratiquent des activités scientifiques diverses. Dans beaucoup de pays, elles dirigent directement et financent des instituts de recherche et des laboratoires qui leur sont rattachés. Elles interviennent aussi dans tous les pays indirectement, en favorisant des recherches dans des universités, en finançant des projets universitaires ou en couronnant des carrières et des mérites universitaires. Historiquement, dans le monde européen, les universités et les académies sont nées du même mouvement intellectuel, artistique et scientifique. Longtemps, les académies ont eu le monopole de la haute science et des beaux-arts. Pour des raisons tenant à la démographie scientifique, aux spécialisations croissantes et à la nécessaire liaison entre recherche et enseignement supérieur, la division traditionnelle entre académie et université n'a plus de sens. Les unes et les autres, séparées et proches, concourent aux mêmes fins avec des moyens et des organisations différentes. Les académies ne peuvent prétendre constituer un corps scientifique supérieur à celui que constituerait si elles étaient réunies les universités, ni exercer une tutelle à leur égard. Elles ne constituent pas non plus une émanation des universités, ni même une sélection au sein des universités. Il faudrait donc définir avec précision quelles sont aujourd'hui les fonctions respectives des universités et des académies et leurs devoirs réciproques. Ces deux groupes d'institutions ne doivent ni s'ignorer, ni se combattre. Si elles le faisaient, elles nuiraient à leur vocation. Elles doivent donc se connaître, se reconnaître et collaborer. Je ne doute pas que sur cette importante question, vos débats permettront de dégager une nouvelle doctrine européenne des rapports entre académie et université. Mais il ne faut pas se dissimuler qu'en étudiant leurs rapports avec les universités, les académies seront conduites à s'interroger sur elles-mêmes. Pour qu'il existe une légitimité reconnue réciproquement entre ces deux institutions, il faudra que les académies paraissent légitimes aux universités. Les académies, par exemple, recommandent des procédures d'évaluation externe des laboratoires et des départements universitaires, mais recommanderaient-elles des évaluations de leurs propres activités? Elles se réclament de l'excellence, sont-elles sûres de recruter les meilleurs? Peuvent-elles le faire sans soumettre leurs propres procédures de recrutement à un examen attentif? Il est toujours difficile de trouver des juges pour juger d'autres juges. Il n'empêche que la question de savoir qui juge les jugements des académies dans l'ordre de la science reste pertinente. Présente à notre esprit, elle doit nous conduire à une appréciation constante de nos règles de fonctionnement. De ce point de vue, la concurrence et la complémentarité avec les universités nous seront d'un grand secours. Puis-je parler à nouveau de l'indépendance? Il ne faudrait pas croire, parce que cela s'est produit dans le passé en Europe, que seul l'État ou les Églises, si celles-ci disposaient de pouvoir, pourrait menacer les académies. L'opinion, qui s'érige en puissance dogmatique, les médias, qui sont les instruments et les initiateurs de cette puissance, les entreprises, les professions, les corporations qui veulent protéger leurs intérêts ou étendre leur position, sont capables d'intimider, d'infléchir, quand ce n'est pas d'interdire ou de corrompre. Plusieurs d'entre vous ont fait allusion à ces dangers. Il ne suffira pas d'en prendre conscience pour les vaincre ou les éviter. Les académies, dans un monde où l'opinion règne, sans toujours être informées et éclairées, doivent s'interroger sur leur contribution à une information plus éclairée dans les domaines qui les concernent, par exemple dans celui des sciences de la vie ou de l'environnement. Ce qui conduit à se demander par quels moyens, visibles, audibles et visibles, elles pourraient faire connaître leurs avis, comment elles devraient participer au débat public, par quels canaux elles seraient le mieux entendues et de quels moyens il faudrait qu'elles disposent pour l'être. C'est la raison pour laquelle, de même que dans le passé, les académies européennes ont joué un grand rôle en matière de liberté et de droit de la presse et en matière de publication scientifique, elles doivent aujourd'hui devenir très attentives à la démocratie médiatique et donc au maniement et aux effets des nouvelles techniques d'information et de communication. Avec la question des intérêts des entreprises ou des corporations, on aborde un sujet plus classique, bien connu dans les universités. Comment préserver l'indépendance de son jugement quand on est subventionné pour l'exercer? Même la gratitude doit connaître des limites. Les académies rencontrent ce problème quand elles bénéficient de subventions, de donations, de fondations pour financer des recherches ou attribuer des prix. En ces occasions, la prudence des donataires doit être égale à l'habileté des donateurs. Les académies servent souvent d'intermédiaires entre les riches et les savants ou les créateurs. Dans cette médiation, elles ne risquent que leur vertu, mais leur influence et leur autorité sont au prix de cette vertu. Aussi, je ne doute pas qu'en échangeant entre académies des informations sur nos règles et nos pratiques, sur les précautions et les contrôles nécessaires pour préserver nos choix, nous parviendrons à progresser sur un terrain où la candeur si respectable des hommes de science affronte parfois les vices de la nature humaine. Mais ce serait une erreur égale, en suspectant les riches, de suggérer que les scientifiques détiennent le monopole de la vertu. Aussi, les riches sont-ils également habilités à examiner nos procédures pour vérifier que nous ne protégeons pas injustement nos élèves et nos amis en les choisissant ou en les récompensant. Bien d'autres questions sont évoquées dans vos rapports et je ne voudrais pas retarder le temps de vos interventions et de la discussion en les énumérant toutes. Je noterai simplement que beaucoup ont signalé, aussi bien dans le domaine des arts que dans celui des sciences, et bien sûr dans ceux de la philosophie et de l'histoire, que nos académies exerçaient une double fonction sociale. Elles devaient à la fois conserver le passé et éclairer l'avenir. Dans le passé se trouve la mémoire de nos pensées et le souvenir de nos actions, mais aussi l'expérience de nos méthodes et la mesure de nos règles. Pour éclairer l'avenir, nous avons besoin de connaître ce passé aussi bien celui de nos erreurs que celui de nos succès, celui de nos fautes que celui de nos grandeurs. Pour éclairer l'avenir, nous devons regarder au-delà des échéances électorales et même au-delà du siècle. Cette fonction nous donne-t-elle une position particulière, difficile à tenir dans les sociétés modernes, plus attentive au futur qui égalise et qui promet l'idéal à tous, qu'au passé qui distingue et qui parfois met les défauts en relief. Vous en êtes juge. Peut-être le Vetat Mori d'Horace, dont certains ont fait une devise, nous incite-t-il à relever ce défi du temps. Nous pouvons aussi faire état d'autres défis et nous interroger sur des fins pratiques importantes dans nos sociétés européennes, auxquelles nos académies pourraient consacrer une partie de leurs énergies. Par exemple, la défense, voire la sauvegarde de toutes les langues d'Europe, mais aussi le progrès social, la santé publique, les causes de la criminalité et ses remèdes sur notre continent. Pour toutes ces questions, la coopération entre Européens de disciplines différentes serait utile et nos académies, par leur composition même, pourraient y contribuer. Puis-je insister sur les politiques de coopération scientifique européenne? Le fait que les États-Unis, moins peuplés que l'Europe, moins riches de traditions universitaires et académiques, disposant d'un PNB par tête à peine supérieur et globalement inférieur, et puis en un demi-siècle, se donner un potentiel scientifique supérieur à celui de tous nos pays réunis et lui consacrer plus de ressources que nous chaque année, devrait être l'objet de nos préoccupations constantes. Tant il est évident que le retard européen tient à nos organisations scientifiques et à nos divisions en nations indépendantes. Ces défis, ces perspectives obligent à souligner deux recommandations qui pourraient inspirer nos réflexions. La première est que nous reconnaissions que nos académies servent à des fins ultimes qui les dépassent, au premier rang desquelles est la vérité. Or, il n'est pas sûr que nos sociétés modernes, vouées au progrès économique et réparties en nations égoïstes et querelleuses, acceptent entièrement cette fin, ou tout au moins acceptent de s'y subordonner. Or, pour nous, sans le service de cette fin, nos académies pourraient se laisser conduire par les vanités mondaines et les grandeurs d'établissement. Il n'est pas évident non plus qu'on puisse facilement dans nos sociétés devenir la conscience de la science, comme certains d'entre vous le suggèrent. Peut-être pourriez-vous débattre de cet objectif et des moyens d'y parvenir. La deuxième recommandation serait de ne pas oublier qu'aucun ouvrage des hommes n'est fait pour l'immortalité. Il faut donc constamment remuer les cendres de nos règles pour nourrir des règles plus propices à l'action, comme on a dû, disait Turgot, renverser des monuments stériles pour trouver des terres arables. De plus, ajoutait un de nos confrères, disparus et oubliés, si le monde serait sauvé depuis longtemps, si la qualité des hommes valait la qualité des idées qu'ils professent. C'est donc plus par nos œuvres que par nos idées que nous ferons, je crois, le salut de nos académies. Je vous remercie.
Le chancelier Gabriel De Breuil ouvre la discussion avec la salle.
Je remercie Monsieur Jean-Claude Casanova de cette présentation très générale qui ouvre maintenant notre délibération, si vous le voulez bien. Donc j'ouvre la délibération générale.
Une trentaine d'interventions ont suivi pendant 2 heures. Canal Academy en a sélectionné quelques-unes pour illustrer la richesse et la vitalité du débat. Vous entendrez successivement un membre de l'Académie des sciences de Russie, de l'Académie allemande des sciences naturelles Leopoldina, d'une Académie d'Espagne, de l'Académie des sciences de Heidelberg, de l'Academia Europa, de l'Institut Lombard Académie des sciences et des lettres. Et pour finir, quelques mots de Michel Zinck de l'Académie des inscriptions et belles lettres.
Je suis le membre de l'Académie des sciences de la Russie. Premièrement, je vais vous dire que nous sommes très contents que cette réunion ici et l'initiative de l'Institut de France est très importante et très utile. Quant à l'Académie des sciences de la Russie, je vais vous dire quelques mots. Après les troubles de la crise de début des années 90, l'Académie des sciences de Russie maintenant renforce ses positions et se pose de nouveaux objectifs. Vous connaissez, vous savez que dans beaucoup des pays, l'Europe centrale et de l'Est, maintenant le grand changement de rôle, la structure de l'Académie. Mais je veux dire qu'après les discussions dans la Russie, nous conservons le système de l'Institut qui était beaucoup des années notre pays. Et maintenant, plus que 400 instituts continuent son activité scientifique. Mais les principales tâches de l'Académie russe maintenant, c'est suivante. Premièrement, les questions de modernisation de l'Académie et soutien d'innovation. Je vais vous dire franchement que c'est absolument clair qu'est-ce que c'est l'innovation dans les sciences techniques ou les naturelles, mais c'est très difficile, ce process dans les sciences humaines et sociales. Maintenant, nous avons discuté beaucoup des années, combien route, combien direction d'innovation dans les sciences humaines et sociales. Un problème plus, c'est le problème de l'interdisciplinarité. C'est le même, peut-être plus important à notre académie, organiser beaucoup de recherches en principe d'interdisciplinarité. La seconde question, c'est le problème de notre lien avec l'éducation. Comme vous savez, dans les pays, beaucoup de l'académie, l'organisation d'un système d'un pays occidental était comme les recherches, premièrement dans l'université. En Russie, vous connaissez que nous avons le système que l'académie séparée de l'université. Maintenant, c'est très important, à mon avis, c'est plus important, que notre Parlement permet à l'Académie des sciences d'organiser le process d'enseignement dans l'Académie. Et nous, déjà, organisé quelques universités dans l'Académie des sciences. Pour nous, cette question absolument nouvelle à notre Académie, et à mon avis, c'est le grand futur de ce système. De notre rapporteur mentionnait aussi le problème de statut. Je vais vous dire franchement que nous avons maintenant les discussions avec les gouvernements, les discussions très souvent difficiles, parce que c'est le problème de l'indépendance de l'Académie, pas seulement le problème de contenu, mais premièrement de la finance et de propriété. Dans l'Académie, nous sommes préparés nouvelle variante de notre statut qui a été adoptée dans la générale, réunion générale de notre académie. 1300 personnes votent. Pratiquement, seulement un abstient pour le nouvel statut. Et nous avons maintenant les discussions avec le gouvernement qui avait les autres variantes de statut. Je vous dis que nous avons le support du président de l'API et j'espère que nos statuts qui sont adoptés par l'Académie seront adoptés par le gouvernement dans le futur. Et enfin, je vous dire aussi que dans le rapport de notre chancelier, il mentionnait le problème de liberté, droit de l'homme, etc., etc. Et dans ce cadre, je vous informe que beaucoup de notre institut dans l'Académie, maintenant, renforçait ces sujets pour son content de son activité, les problèmes de l'humanisme, le problème des droits de l'homme, le problème de l'Europe, le problème de la Russie et l'Europe, etc. Merci.
Merci beaucoup. Vous avez la parole, cher frère.
Je crois qu'il s'agit surtout du problème et du phénomène des jeunes chercheurs qui ont, il me semble, plus de possibilités et plus de liberté et aussi plus de financement, évidemment, aux États-Unis ou au Canada qu'en Europe. Moi-même, j'ai été associé des recherches à l'Université de Chicago à l'âge de 22 ans avec aucune autre obligation que d'écrire un livre, ce que j'ai fait, sur Benjamin Franklin d'ailleurs. J'avais 22 à 24 ans quand j'ai eu cette liberté inouïe qui en Europe aurait été impossible. Alors, nous savons tous qu'il y a un mouvement d'émigration de jeunes chercheurs des pays de l'Europe à l'autre côté de l'Atlantique. Et je crois qu'il se pose aussi un problème ou une tâche peut-être pour les académies de faire quelque chose. Ils ne peuvent pas faire tous, elles ne peuvent pas faire tous évidemment. Et je voudrais, je me permets d'attirer votre attention sur deux essais d'inclure des jeunes chercheurs dans les institutions des académies. Il y en a deux. Il y a un projet qui a été initié par l'Académie Léopoldina de Halle et conjointement avec l'Académie de Berlin-Brandenburg, un projet qui s'appelle Junge Akademie, la jeune académie, qui a été fondée en 2000, peut-être Monsieur Müller-Hermelink de la Léopoldina pourra encore ajouter quelques mots là-dessus. Il n'y a même pas 15 jours, l'Académie autrichienne à Vienne a voté une transformation de l'Académie, la transformation la plus importante dès sa fondation, en créant un corpus qui s'appelle Junge Curie, jeune curie. Ça va devenir l'année prochaine une institution de l'Académie avec un maximum de 70 membres. Le premier groupe va être nommé par l'Académie parmi des jeunes chercheurs très brillants qui ont reçu des prix, d'autres distinctions et des évaluations internationales importantes. Après, cette jeune groupe, jeune curie, va s'accroître par cooptation, un maximum de 70 membres, un maximum de pouvoir être membre limité à 8 ans. Cette limitation importante. Après, évidemment, il y aura la possibilité d'une cooptation par l'Académie, les membres ordinaires. Je voulais attirer votre attention sur ces projets de jeunes académies ou jeunes curies. C'est peut-être une possibilité de tenir au moins quelques très brillants jeunes chercheurs dans les pays de l'Europe, et ça m'intéresserait beaucoup s'il y a d'autres académies présentées ici qui ont déjà créé ou qui ont peut-être l'intention de créer des corps, des jeunes un peu semblables. Merci.
Merci beaucoup. Vous avez la parole.
Et merci, Monsieur le Président. Lors de votre intervention, j'ai noté avec beaucoup d'intérêt, quand vous avez parlé de notre nation, l'Europe, la vision de l'homme et du monde, et finalement, vous avez parlé des valeurs européennes et leur caractère universel. Je ne sais pas exactement si c'était une affirmation ou une question. Mais en tout cas, je trouve que c'est important que ce que pendant des siècles nous avons eu comme valeur européenne, nous ne devons pas nous contenter simplement que ce soit des valeurs européennes et appliquées en Europe, mais qu'elles aient une portée universelle. Je pense que c'est un peu le sens de votre intervention. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de problèmes qui se posent et qui exigent une réponse universelle à l'époque de la globalisation. Ce n'est pas possible maintenant simplement des réponses régionales. Il y a les questions qui ont rapport avec l'hostilité de la nature, des problèmes qui se soulèvent aujourd'hui, par exemple des nationalismes extrêmement poussés, ce qui a existé aussi dans le passé, mais que maintenant ça revient avec force et avec dramatisme dans certains cas, et c'est un Espagnol, mais un Basque qui vous parle. Il y a le problème des fondamentalismes, il y a le problème du terrorisme, il y a même aussi des questions comme par exemple les limites à la liberté d'expression. La liberté d'expression a des limites, C'est une question que moi, je me suis posée quelquefois. Nous avons tous parlé de la liberté d'expression. Depuis des siècles, il y a l'idée de la liberté d'expression. Mais est-ce qu'il doit avoir des limites? Alors, je pense que peut-être les académies européennes, à l'encontre des académies des autres régions du monde, pouvaient contribuer à donner une réponse à ces problèmes en cherchant ces réponses universelles et pas seulement en empêchant des attitudes déterminées, mais aussi avec des pratiques positives. Moi, je pense que les États ont pas seulement une obligation d'empêcher certaines règles qui vont à l'encontre des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais il y a aussi des obligations positives de la part des États. Alors, peut-être quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui dans la plupart des législations, mais peut-être serait un sujet qui pourrait être à l'examen des académies, justement, qui ne sont pas directement obligées par les décisions des gouvernements, mais au contraire, sont libres, sont indépendantes et peuvent contribuer à cette portée de ces obligations positives sur les droits de l'homme et des citoyens et dans un regard pas limité seulement à sa région, mais au monde tout entier.
Merci beaucoup. Vous avez la parole.
Je voulais faire une remarque qui concerne ce que vous avez dit, Monsieur le Chancelier, sur la relation entre l'idée de l'Académie et l'Europe. Il me semble que c'est tout à fait essentiel de souligner cette relation fondamentale. Dans une certaine mesure, je trouve moi aussi, je n'ai pas encore dit, je suis Karl-Heinz Stierle de l'Académie de Heidelberg. Je voulais insister sur ce point que, dans une certaine mesure, l'idée de l'Académie est l'idée de l'Europe même et ressort d'une certaine conception, si vous voulez, utopique de l'Europe, qui a toujours accompagné l'Europe et qui est au point maintenant de se réaliser dans une certaine mesure. Mais je crois que cette Europe des académies ne doit pas être une sorte d'union d'académies dans le sens d'une organisation encore supérieure, mais pour moi, l'ensemble des académies de l'Europe, c'est plutôt une sorte de constellation. Une constellation où chaque étoile a sa lumière, a son espace à illuminer, et pourtant l'ensemble de ces étoiles, c'est justement l'idée même de l'Europe, l'idée utopique, mais aussi l'idée, la réalisation, dans une certaine mesure, de cette utopie. Et bien sûr, la question se pose de la liberté de cette institution merveilleuse. Il me semble qu'on peut la regarder d'un point de vue idéaliste ou réaliste. Du point de vue idéaliste, il nous faudrait une indépendance absolue, mais nous savons bien que ce n'est pas possible. Mais il me semble que un État illuminé, c'est bien qu'il doit réserver un espace de communication libre et d'excellence, justement pour l'ensemble, pour le profit de la société même. Si je pense à l'État prussien qui a fondé l'université de Berlin dans des conditions extrêmement difficiles, et cet État a donné une liberté inouïe aussi bien à son université qu'à son académie, et le résultat, c'était des achèvements extraordinaires qui ont richement payé le courage de cet État, n'est-ce pas, de justement donner, dans le sens de Humboldt, une liberté de la recherche et de la communication. Et il me semble que ce qui nous unit, et je suis très très heureux que l'Institut ait eu cette idée grandiose de nous rassembler ici, dans ce lieu même, dans cette capitale du savoir, n'est-ce pas, de nous avoir donné la chance de réaliser ce qui était déjà avant une réalité, c'est-à-dire une communauté d'esprit de toutes ces universités et de toutes ces académies avec toutes leurs différences. Je trouve que ces différences sont aussi importantes que notre unité dans l'esprit même de ce que l'Académie peut être depuis son fondement dans la démocratie grecque et ses continuations dans l'Europe moderne.
Merci beaucoup. Je crois que M. Poirier voudrait prendre la parole.
Merci, Monsieur le Chancelier. Jean-Paul Poirier, vice-président de l'Academia Europea. Je voudrais préciser quelques points à propos de l'Academia Europea qui sont pertinents à la discussion de ce matin. Bon, l'Academia Europea, qui aura 20 ans l'année prochaine, n'est pas une fédération d'académies. Elle comprend à peu près pas loin de 2000 membres qui sont tous élus intuitu personae, avec les mêmes des procédures analogues à celles qui président aux élections dans les académies nationales. Elle jusqu'ici, d'ailleurs, il y a beaucoup de membres qui sont présents ce matin. Son rôle est de, indépendamment des États, elle n'est subventionnée par aucun État, de faire un lien entre les scientifiques, les humanistes, les artistes de toute l'Europe, prise au sens large, c'est-à-dire bien au-delà des 27 de l'Union européenne. Elle tient ses réunions annuelles dans une capitale ou une ville importante d'Europe, qui change tous les ans, et elle, à cette occasion, elle donne des prix à un certain nombre de jeunes doctorants ou de jeunes docteurs du pays. Alors, un des points essentiels, c'est que cette académie n'a pas le rôle qu'on a beaucoup mentionné ce matin, n'a pas le rôle de juge, parce qu'elle n'est pas, elle ne dépend d'aucun pays, elle n'a pas de privilège pour juger ce qui se passe du point de vue de la recherche dans un pays. Donc son rôle est beaucoup plus européen en général. Donc elle tient de nombreux colloques sur des sujets tout à fait généraux dans des pays différents et organisés à l'échelle européenne. Alors, elle est indépendante, évidemment, de tous les États. Le revers de la médaille, c'est évidemment qu'elle n'est subventionnée par aucun de ces États. Et donc, ça, c'est un des problèmes pour une académie européenne, authentiquement, qui n'est pas une fédération, qui est une académie européenne, mais dont jusqu'à présent, le financement dépend beaucoup d'abord des membres et puis des mécènes qui veulent bien, en général, subventionner des colloques, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de subvention d'État. Voilà. Merci, monsieur.
Merci beaucoup. Vous avez la parole.
Merci, monsieur le président. Deux remarques sur la fonction des académies. Je suis Antonio Padoa Schioppa, président de l'Istituto Lombardo Académie de Sciences et Lettres, fondé par Napoléon, il y a 2 siècles. La première remarque, l'histoire est histoire, concerne une fonction que, à mon avis, l'université souvent n'est pas apte à satisfaire, c'est-à-dire l'interdisciplinarité. La parcellisation des connaissances est extrême à l'heure actuelle et il se trouve que souvent même les savants d'un même secteur à l'intérieur de la mathématique, même des sciences humaines, n'ont plus la capacité de comprendre à fond une contribution scientifique d'un collègue. Donc cette fonction de liaison entre les secteurs différents et à plus haute raison entre secteurs très éloignés, tels que les sciences humaines et la psychiatrie, la sociologie et les mathématiques, la théorie des jeux, on pourrait faire nombre d'exemples. Ça, c'est le sel, souvent, des nouvelles découvertes, et ça sera, à mon avis, une clé décisive pour la science de demain. Donc, les académies qui ont dans leur sein des savants des secteurs très souvent très éloignés sont peut-être la seule instance où l'interdisciplinarité peut vraiment se développer, et, puisque les universités sont parcellisées par département et par secteur. Ceci rend très important aussi ce qu'on peut dénommer la haute vulgarisation, c'est-à-dire la capacité de faire comprendre avec le langage commun, qui d'ailleurs est beaucoup plus nuancé qu'on ne le croit, ce qu'on fait et les frontières de la recherche à d'autres qui ne sont pas spécialistes de ce même secteur. Voilà une vocation spécifique que je vois pour les académies de demain. Deuxième remarque, l'Europe. On a dit déjà par Monsieur le Président, par Monsieur Cannasanova, des choses que je partage, et par d'autres, des choses que je partage entièrement, même l'expression très forte que le Président aujourd'hui, notre nation, c'est l'Europe, je la partage avec la précision que, je pense, le Président, sur laquelle il est d'accord, que nous avons maintenant une conception qui n'est plus exclusiviste de l'appartenance à une culture, à une nation. Donc on peut être en même temps citoyen du monde, européen, français, lombard, et même habitant d'une ville. Et ça ne se contredit pas. Et ceci vaut aussi pour la culture. En ce qui concerne l'Europe, je vois deux fonctions des académies. L'une est de faire renaître cette république de la culture juridique qui était absolument la règle avant le 19e siècle. Tout le temps, les savants se parlaient, s'écrivaient. Il y avait évidemment une langue commune qui d'abord était le latin, ensuite le français. Maintenant, pour les scientifiques, c'est l'anglais. Et la langue est importante, mais cette communication est essentielle. Et en plus, il y a une fonction complémentaire par rapport aux académies nationales, c'est que dans beaucoup de domaines, je mentionne notamment l'histoire, il y a la possibilité de faire une histoire qui est vraiment européenne, puisque souvent les visions nationales ont déformé les faits et les jugements. Et pour ça aussi, il faut des investissements non tant en argent, mais plutôt en culture. Donc là aussi, les académies peuvent exercer une fonction essentielle. Enfin, le problème des jeunes a été évoqué, c'est important. Je suis parfois surpris en lisant que quelques académiciens du 19e siècle avaient été élus à 20 ans, 23 ans, 25 ans. Et il faut dire qu'aujourd'hui, même les prix Nobel sont souvent un peu âgés, donc on peut l'expliquer par le fait que probablement il faut du temps pour comprendre si une découverte est vraiment essentielle ou pas. Mais en tout cas, le problème d'investir sur le jeune concerne les académies aussi. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Vous avez la parole.
Ce qui ressort clairement des débats de ce matin et qui est très intéressant, c'est à la fois une communauté d'aspiration, en particulier sur l'indépendance des académies, sur le rôle de conseils qu'elles pourraient jouer sur la définition de leur rôle au regard des institutions universitaires. Donc une communauté de préoccupations et de volontés évidentes, mais aussi une diversité de situations. Diversité de situations qui est apparue, par exemple, sur les questions financières, sur les questions de patrimoine, qui sont des questions essentielles au regard de l'indépendance. Car, comme l'a dit Madame Layou, on ne peut plus compter aujourd'hui sur les gouvernements pour assurer le patrimoine des académies. Donc il y a des académies qui ont un patrimoine, il y en a qui n'en ont pas, les situations sont très diverses. Les premières interventions venant de nos confrères britanniques, celle de la British Academy et celle de la Royal Society, ont porté sur ces si ma mémoire ne me trompe pas, sur ces questions d'indépendance. Mais la situation, nous le remarquions samedi, la situation est très différente pour une institution comme la Royal Society, qui trouve naturel que ses membres payent une cotisation, et celle des membres de l'Institut de France, qui trouvent naturel de percevoir une indemnité, certes symbolique, mais qui assure leur fonction officielle et le rôle qu'ils jouent dans le pays.
Vous venez d'entendre la retransmission de la première demi-journée des travaux académiques de la rencontre des académies européennes qui s'est déroulée à l'Institut de France le 22 octobre 2007. Cette séance avait pour thème « Les académies face à l'État et à la société ».